franceinter.fr.
Bonjour à tous. Alors qu'une cinquième séance de négociations sur la Syrie vient de se terminer à Genève, la ville d'Alep, reconquise par les troupes syriennes et leurs alliés, iraniens et russes, il y a juste 3 mois, reprend péniblement son souffle après 5 années de guerre civile. Avant le conflit, Alep était une ville de 3 millions d'habitants. Commerçante et cosmopolite, elle abritait des communautés sunnites, chrétiennes, alaouites, kurdes et même druzes. Toutes vivaient en bonne intelligence dans cette deuxième ville du pays dont elle était en fait la capitale économique. 5 années de combat ont ruiné cette prospérité. À l'été 2012, la ville s'est divisée entre partisans du régime à l'ouest et rebelles à l'est. Un temps passé sous le contrôle de l'organisation État islamique, la ville a été en butte aux affrontements entre factions rebelles avant sa reprise. Des milliers d'Alépins sont morts sous les bombardements des deux camps, des dizaines de milliers ont pris la fuite, se réfugiant ailleurs, principalement en Turquie. Christian Chesneau a pu se rendre à Alep pour y constater que, très lentement, la vie reprend son cours et que dans les pires difficultés, certains sont restés, maintenant un semblant d'activité économique ou culturelle, malgré l'embargo décrété par les nations occidentales. Alep, la vie dans les décombres, c'est un reportage de Christian Chesneau.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous sommes maintenant au pied de la citadelle, un des symboles de la vieille ville d'Alep. Les dégâts autour sont considérables, et notamment l'hôtel Carlton, un ancien hôtel prestigieux qui a été dynamité par les rebelles, qui était parvenu par les sous-sols, par les tunnels, à placer plusieurs tonnes d'explosifs, et l'hôtel n'est plus qu'un amas de pierres et de ferrailles.
Bonjour, je suis Hélène Kilo. Je suis une ingénieure civile d'Alep, de la direction d'antiquité et de musée. Je travaille depuis 20 ans à la direction d'antiquité et musée à Alep.
Donc là, on va entrer dans la vieille ville.
Dans la vieille ville. C'est le frontière de la vieille ville.
Et donc là, Hélène.
Oui.
On traverse des décombres, des maisons,
oui,
des passages.
Oui.
C'est complètement...
Ils sont complètement détruits.
Là, on a l'impression qu'il y a un tremblement de terre, un cyclone qui est passé, parce que tout est dévasté. On voit les palmiers, c'est des moignons de palmiers.
Oui,
les maisons sont éventrées, il y a du fer partout. C'est vraiment l'apocalypse.
C'est comme le tremblement de terre. Au-dessus de chaque maison, il y a une cave, il y a une...
Un souterrain.
Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, on va voir la porte de Beit Ghazal. Maintenant, ok. C'est tout des, comme on dit, un souk ici. Souk pour les vieilles choses.
Et là, il n'y a plus rien, là.
Excusez-moi.
C'est une ville fantôme. Il n'y a personne, il n'y a pas de bruit.
Non. Ici, dans cette place, dans cette région. Mais notre région, à la vieille ville, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont revenus.
Qui reviennent
venir. Oui. Mais ici, on a une idée pour ne pas quelqu'un, yani, ne revient pas maintenant. Parce que s'il vient, il resterait leur place, c'est pas comme on a décidé.
C'est vous qui supervisez la restauration pour pas faire n'importe quoi.
C'est ça. On a une finance de la direction d'antiquité de Damas. On a des finances pour restaurer cet musée et là-bas, l'autre musée.
On peut entrer ?
Ah oui, bien sûr. Tu peux voir les choses comme
ah
ça.
Ah oui, il ne reste plus rien là. Là, c'est...
C'est normal. Hein ?
Alors là, je vois une bombe qui n'a pas explosé.
Oui.
C'est les rebelles qui avaient fait des bonbonnes de gaz avec comme des bombes, c'est ça. Hein.
Oui, il y a beaucoup là-bas.
Heureusement, elle est désamorcée. Elle n'a pas explosé.
Oui. Mais on ne fait pas, Yanni, toucher parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il passe. C'est la grande salle et avec on nommait ça durqa en arabe. Il y a beaucoup de bois sur les murs décorés, mais ils sont tous.
Tout a été détruit.
Détruit, mais peut-être ils sont volés. parce oui. qu'ils sont très, très spéciaux et jolis. Il y a beaucoup de gens qui entrent comme nous.
Et là, vous allez reconstruire à l'identique.
Tous les vieilles Alep vont reconstruire comme avant.
بك وانطرت شو اللي أساك ما بتسأل عني يعني ما أقول ما ترد علي وعني مشغول خلاص بكفي
Je m'appelle Mustafa Attar. Ici, c'est mon restaurant. Il a ouvert en 1958. Mais on est toujours là. Mais on le restaure pour qu'il ouvre de nouveau. On veut vraiment qu'il soit aussi beau qu'avant, si Dieu le veut.
Et il y a eu beaucoup de dégâts ici ?
Pas trop chez moi, mais à côté énormément. Regardez, ça c'était un café, ça aussi.
On peut entrer ?
Bien sûr, soyez les bienvenus. Ici, ce café était ouvert depuis 50 ans. En 2004, nous avons créé un restaurant. Mes voisins veulent reconstruire leur établissement.
Tout le monde, je pense, après 2 ou 3 mois, si, je pense, l'avril, les gens vont construire tout ça. Parce que c'est une cafétéria très importante ici. Tout le monde vient ici pour prendre quelque chose devant la citadelle. C'est le café le plus joli ici en Alep.
C'est ça, c'est-à-dire que la citadelle
oui,
est en face et les gens prennent leur
oui,
café.
Le café ici au trottoir et fait le chicha et comme ça.
Donc le propriétaire du restaurant juste en face de la citadelle est en train de refaire des travaux. C'est le premier à reconstruire son restaurant juste en face de la citadelle. Et donc pour lui, c'est important de reprendre son activité. Il a aussi un magasin dans les souks qui a été détruit évidemment. Voilà, donc la cuisine. Ça, c'est pour les boissons.
Café, chai,
café, thé.
Des cocktails de fruits.
Voilà, et là aussi, il y avait un endroit ici pour les cocktails de fruits, les glaces, où évidemment tous les touristes, les Alepins venaient pour déguster une glace, boire un thé, un café devant la citadelle. Emta, et vous pensez rouvrir quand ?
Si Dieu le veut, nous rouvrirons le restaurant juste après le mois de Ramadan, au mois de juin, dans 3 mois. Parce que pendant le mois de Ramadan, on est fermé.
Close.
Docteur Mahmoud Abdul Karim, vous êtes le patron des antiquités syriennes. Il y a 3 mois, Alep était libéré des groupes armés. Premièrement, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez découvert Alep ? Déjà, quel était le tableau à l'époque, il y a 3 mois ?
Je peux vous donner la confirmation que 40% est bien, en général. 30% pourrait être restauré aussi, donc c'est moyen comme de dommages. Mais franchement, il y a 30% catastrophique. Et donc, c'est un vrai défi aujourd'hui, comment on va dans l'étape suivante. Je pense qu'on doit être vigilant contre toutes les idées qui visent à déformer l'image de la ville, au contraire d'autres expériences dans le monde. Nous, on insiste de rendre Alep sa splendeur comme une ville ancienne, pas de nouvelle construction moderne, absolument pas. Et pour commencer, je pense, il faut que le peuple d'Alep revienne à sa ville. c'est à travers la mémoire, les souvenirs de ce peuple, on va rendre l'âme d'Alep à la ville d'Alep. On doit éviter de la politique, on ne doit pas faire une confusion entre la politique et l'héritage, et la politique va changer, et la guerre va terminer, et un jour on va retourner dans les vieilles villes d'Alep, vieilles villes d'Amas, etc., pour se souvenir, parler sur l'histoire de la Syrie, la fierté de cette histoire antique. Mais si on va faire suivre, comment dire, les business pour faire les hôtels, pour faire des choses, là franchement, on n'accepte jamais.
Et alors, qui va payer ? Parce que ça va coûter cher, quand même.
Il y a des milliardaires syriens qui se sont présentés dès maintenant pour la restauration de la mosquée Omeyyade à l'étranger.
Ce qui veut dire que l'argent ne va pas manquer.
Non. Aga Khan, 10 gens engagés avec nous pour la réhabilitation presque de 20% de la vieille ville d'Alep. C'est-à-dire la citadelle, autour de la citadelle, et le souk, c'est-à-dire le cœur touristique de la ville d'Alep, jusqu'à la rue Colonnade, en terminant par la porte Antioche. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de partenaires qui vont venir, et il va être beaucoup plus fort si la paix revient en Syrie. Il faut que la communauté internationale aussi soit beaucoup plus positive, et au moins sur le plan scientifique, échanger les idées ensemble, mettre le plan de chemin pour la ville d'Alep. On n'a pas besoin de se défendre chaque fois. Il y a droite à gauche qui nous attaque, qui nous accuse. Vous avez rasé la ville, vous avez fait ça. Donc il faut être positif dans cette affaire. Si les pays étrangers pensent qu'on doit sauver les institutions syriennes, ils ne doivent pas commander nous attaquer. Ils doivent nous aider. S'ils ne nous aident pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, ne nous attaquent pas. Il ne faut pas nous condamner. Pourquoi on est resté en Syrie ? On est resté en Syrie, ce n'est pas parce qu'on a aimé la guerre. On est resté pour sauver ce patrimoine riche. Finalement, c'est pour tous les Syriens, que ce soit opposant, soit loyaliste. Finalement, la Syrie va retourner un jour dans une génération ensemble. Ils vont visiter tous ensemble ces musées et voir ensemble ces collections magnifiques dans leurs musées.
Dernière question. À votre avis, la reconstruction d'Alep, c'est quoi ? C'est 10 ans, 15 ans ?
Alep, on parle sur la destruction qui touche au moins 1200 bâtiments. Sans calculer les souks. Il y a des dommages contre 1200 bâtiments historiques dans la ville d'Alep. Et ensuite aussi, la vraie question, comment on va traiter les bâtiments qui sont rasés ? Quel va être à la place de ces bâtiments ? À mon sens personnel, on doit faire des parcs archéologiques, laisser des vides, donner un peu des places vraiment pour le peuple, etc. Mais à mon avis, ça va être, comment dire, un gros problème si on va construire des nouvelles hôtels à la place des bâtiments qui sont détruits. C'est un défi, on doit faire gaffe, mais soyez sûrs, Direction générale des antiquités, des musées, elle va faire tout possible, toute la résistance jusqu'à dernière minute pour défendre la ville d'Alep contre n'importe quel projet qui soit bidon.
أنا حسبي أنني من جبلي وبين الله والأرض كلام قمم كالشمس في قسمتها
Pendant les combats pour la reprise de la ville, les hôpitaux des quartiers rebelles d'Alep Est ont été délibérément visés par les frappes aériennes de l'armée syrienne et des Russes. Aujourd'hui, les seuls établissements qui fonctionnent encore se trouvent dans la partie occidentale de la ville, comme l'hôpital El Raja. Nous rencontrons son directeur, Emil Kati.
L'hôpital El Raja veut dire l'espérance. Voilà, je suis directeur, je suis chirurgien orthopédiste, j'ai été formé en France pendant longue année, je suis resté à Paris 12 années. Il y a 17 ans, nous avons ouvert cet hôpital-là, et malgré la guerre, nous avons continué à servir toute la population sans distinction. Il y a beaucoup des blessés de guerre, nous avons continué dans le même temps à soigner les maladies chroniques, c'est-à-dire les non-urgences de guerre. Quelqu'un qui a une appendicite, qui n'est pas soigné, il peut mourir, pas par une balle, par manque de soins. Mais de l'autre côté, on a des problèmes avec les équipements médicaux à cause de l'embargo. Aussi pour certains médicaments spécifiques qui ne sont pas fabriqués par nos usines nationales, par exemple pour le cancer, pour la nutrition parentérale, des trucs comme ça. Et ça veut dire que les gens qui n'ont pas été tués par les balles, ils peuvent être tués par le manque des soins à cause de l'embargo.
Est-ce que vous avez été touché par les combats.
Exactement. Alors nous étions touchés par les combats, donc nous avons reçu beaucoup des obus qui sont tombés, pas directement à l'hôpital, mais à côté de l'hôpital. Par contre, il y a 3 mois, quand Al-Nusra, avec les Tchétchènes et les Igor, qui sont chinois, ont essayé d'envahir ici. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des combats pas loin de chez nous, devant l'hôpital. Et nous avons eu beaucoup de la façade de l'hôpital qui a été touchée. On va voir tout à l'heure aussi, quelques salles d'opération ont été touchées. Mais c'est des dégâts qui ne sont pas très majeurs. Mais de l'autre côté, ils ont empêché, disons, l'avancement de notre action tous les jours.
On va aller voir votre hôpital.
Okay.
Vous nous montrez le chemin.
Ok, allez-y.
Là, c'est l'accueil.
Ici, c'est, voilà, c'est l'entrée, le hall d'accueil. Donc, vous voyez, et donc l'hôpital a été conçu par un architecte français.
On entend un bruit, le bruit du générateur. Ça veut dire
oui,
que pour l'électricité, vous avez des générateurs?
Oui, ça veut dire qu'on a un générateur, mais malheureusement, ça travaille 24 heures sur 24 heures, le générateur. On ne peut pas s'en passer. Voilà, ça, c'est le laboratoire d'analyse médicale.
Bonjour.
Voilà, donc on assure, disons, les analyses 24 heures sur 24 heures, jour et nuit.
On continue.
Ici, donc, c'est la radiologie. Donc, on a un appareil de radiologie standard pour faire les radios standards. Un scanner qui est en panne.
Vous ne pouvez pas le réparer? Pourquoi?
Non, parce qu'il est très, très âgé et le tube est déjà fatigué, donc il est en panne. Il est en train de plier. Ici, c'est la pharmacie. Donc, ça marche 24 heures sur 24 heures.
Oui, donc il y a toutes les professions.
La Syrie a toujours un excellent laboratoire, d'écuménisme, de coexistence.
Donc la pharmacienne est en train de faire sa prière et ça gêne personne?
Non, non, non. Et j'ai des Kurdes, j'ai des Arméniens, j'ai des chrétiens, j'ai des musulmans, j'ai toutes les confessions. Et tout le monde, une ambiance de... Nous sommes la même famille. Voilà, voilà notre ami, il est le directeur de chirurgie cardiaque en face de votre hôpital.
Enchanté.
Le docteur Azzaoui, il est de des résorts originaires.
Donc il est kurde, il est quoi?
Non, non, il est arabe, oui. D'une grande tribu. Et il est de Deir ez-Zor, mais il est à Alep depuis longtemps. C'est un grand chirurgien thoracique. Il travaille ici dans notre hôpital aussi.
D'accord.
Et... À côté de Dieu.
Voilà. Et Farid, il est le chef des soins intensifs. Il est kurde de Kamishli.
Donc vous travaillez ici?
Oui. Oui. Il est travaillé. On a ici tout le monde. J'ai des gens qui sont des musulmans pratiquants. J'ai des gens qui sont libéraux. Des gens qui sont moitié pratiquants. J'ai de toutes les couleurs. Mais qui les choses qui les unissent, c'est leur sentiment qu'ils sont la même famille ici, tous au service de l'homme et de l'homme malade et sans distinction.
D'accord, mais est-ce que pendant les combats, la guerre...
Nous soignons tout le monde, normalement les soldats vont dans les hôpitaux militaires.
Est-ce que vous avez soigné des opposants, des rebelles?
Parce qu'ils ne viennent pas ici. Parce qu'ils ont leur... dans leur quartier...
Mais
ils
vous,
ont...
ça vous aurait choqué de soigner des opposants?
Non, non, mais ils ne viennent pas ici. Nous, on soigne tout le monde sans distinction.
D'accord. Est-ce que l'un des drames de cette guerre, c'est que beaucoup de médecins syriens ont quitté?
C'est vrai, à Alep, il y avait à peu près 6000 médecins. Maintenant, nous sommes restés autour de 1700.
Vous pensez qu'on retrouvera la Syrie telle qu'elle était avant? Parce que là, il y a eu tellement de traumatismes, tellement de violences, tout ça. Si comment vous allez reconstruire les hommes, justement, réconcilier?
Oui. Si on nous fout la paix, je pense qu'on est prêt à recommencer comme avant et mieux qu'avant.
Mais comment réconcilier? Là, on voit bien qu'il y a quand même deux camps. Il y a 5 millions de réfugiés, il y a 8 millions de déplacés.
Tout le monde est fatigué, tout le monde est désireux de recommencer la vie.
Les gens en ont marre?
Bien sûr, les gens en ont marre. Donc, tout besoin, on a envie de continuer la vie.
Je m'appelle Georges Komnenos, je suis le responsable de cette sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge, le bureau qu'on a à Alep maintenant, qui est un bureau qui a été ouvert il y a à peu près 3 ans. Je suis arrivé en fait tout à la fin du mois de novembre et c'était en pleine offensive, je dirais la dernière partie de l'offensive qui a mené à la reprise de l'entièreté de la ville par les troupes gouvernementales.
Oui. Alors justement, dans quel état se trouve la ville ?
Il n'y a plus de combat. Maintenant, toute la partie est sous le contrôle du gouvernement. Par contre, la situation dans laquelle se trouve une partie importante de la population, celle qui était soit déplacée, soit les personnes qui actuellement retournent dans la partie orientale de la ville, c'est toujours une situation extrêmement difficile sur le plan humanitaire. Donc il faut comprendre que la partie orientale de la ville aujourd'hui est privée de tout. Il n'y a pas de... Déjà, de manière générale, toute la ville d'Alep ne bénéficie pas d'eau courante, il n'y a pas d'approvisionnement de système d'eau, il n'y a pas d'électricité non plus, tout fonctionne sur générateur. Et puis dans la partie alors, orientale, il y a un niveau de destruction qui est quand même très 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 élevé, et il y a une absence de services de base. Donc il n'y a pas évidemment d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de services médicaux, il n'y a pas de, il y a rien qui fonctionne. Donc là vraiment il y a un enjeu qui est important au niveau d'abord humanitaire pour adresser les questions les plus urgentes de ces populations dans une situation très vulnérable, et ensuite évidemment il y a plus des considérations, je dirais, qui correspondent plus à des efforts, plus de reconstruction, de réhabilitation, de reconstruction.
Est-ce qu'on a une idée des déplacés, de combien il reste de personnes dans la ville, un petit peu? Vous avez une cartographie humaine de la ville?
Cette ville a connu une situation de conflit, comme vous savez, depuis 2012. Donc il y a des déplacés qui ont quitté leur région, plutôt des citadins d'Alep, qui ont quitté la région orientale, ou qui se sont déplacés, ou qui se trouvent dans la partie occidentale depuis des années. Donc maintenant, on peut dire en gros qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui sont retournées dans les quartiers, si vous voulez, orientaux de la ville.
Sauf que tout est détruit.
Tout est détruit, je ne dirais pas. Il y a un niveau de destruction qui est important. La destruction est véritablement de caractère, on peut la caractériser de manière massive. Maintenant, il y a évidemment là où les gens peuvent retourner, c'est quand les immeubles sont certes touchés, affectés, mais encore dans une mesure, une possibilité d'accueillir les familles. C'est une situation qui est quand même très, très difficile.
Donc on a l'impression que la zone de front est tombée, la ligne qui séparait l'Est et l'Ouest est tombée, mais il y a une cicatrice entre l'Est et l'Ouest physique finalement.
C'est très frappant, si vous voyez les quartiers ouest et les quartiers est. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si la cicatrice, comme vous dites, physique est très évidente, c'est l'ensemble de la population d'Alep qui, durant les combats, a été affectée. Parce que c'est des choses qui ont véritablement touché. Je peux dire qu'il n'y a pas une seule famille d'Alep qui n'a pas été, de près ou de loin, directement touchée par ce conflit, soit par des déplacements, soit par la perte de membres de leur famille, et ainsi de suite.
Sans être Madame Soleil, cette période grise, c'est plus des mois que des semaines pour revenir à la normale.
Alors moi, je pense qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est beaucoup plus des mois que des semaines. C'est un effort concerté avec tous les autres acteurs humanitaires. C'est vrai, il faut encore véritablement adresser les réponses nécessaires sur le plan humanitaire avant de tourner la page et de parler de développement et de reconstruction. Il faut véritablement maintenant adresser. Les besoins restent énormes. Et une fois de plus, ce n'est pas parce que les armes se sont tues que les besoins humanitaires ont disparu.
أنا وحدات يا صاحبي عربية تأبى انفصالا.
Dans le quartier d'Anano, les habitants commencent à revenir. C'est l'un des plus grands quartiers d'Alep, l'un des plus populaires. Une partie des immeubles ont été détruits et les gens commencent à revenir. Alors ici, l'aide humanitaire s'organise. On distribue de l'eau gratuitement, ainsi que de la nourriture. Il y a des centres médicaux. Bref, les gens sortent peu à peu du cauchemar de la guerre. Donc le responsable de cette cuisine populaire, de cette soupe populaire, nous explique qu'il distribue des falafels et c'est l'Iran qui finance et qui donne l'aide alimentaire.
Bonjour, vous appelez comment ?
Mohamed Hamati, Abou Walid.
Et vous faites quoi aujourd'hui ?
Et je distribue des falafels gratuitement, c'est une aide de l'Iran. Ce sont nos amis.
Combien de falafels chaque jour ?
Environ 10 000. Et tout le monde mange. C'est gratuit. C'est une distribution gratuite.
Et les gens sont tous du quartier ?
Oui, et d'ailleurs, tout le monde mange. Et tout le monde mange que des falafels. On fait que ça. Avant, on distribuait des petits déjeuners, mais on a arrêté. C'était du yogourt au thym, du pain, et avant, on buvait aussi du thé.
Et les gens aiment les falafels ? T'aimes les falafels ? Voilà, alors je demande aux gens s'ils aiment le falafel. Bon, ils aiment le falafel, mais personne ne meurt de faim ici. Et surtout, ça permet d'assurer le retour des gens qui, évidemment, n'ont pas de moyens de subsistance, n'ont pas de salaire. Et puis, surtout, ils vivent dans des conditions très précaires puisque une partie des immeubles a été détruite.
Thank you.
La zone industrielle d'El Arkoub est la plus ancienne d'Alep. En 2012, les rebelles ont occupé le quartier pendant quelques semaines avant d'en être chassés par l'armée syrienne. Pendant toute la guerre, les machines ont continué à tourner malgré les combats. Ici, les ateliers sont installés en sous-sol et à tous les étages d'immeubles délabrés. On fabrique des pièces métalliques, des objets en plastique ou des vêtements dans un bruit assourdissant. Aujourd'hui, l'activité reprend malgré tous les problèmes logistiques.
Je m'appelle Samir Kor Abou Amer.
Vous êtes le patron de l'usine ?
Oui, oui. Ça fait longtemps, je suis ici depuis 50 ans.
Et pendant la guerre, qu'est-ce qui s'est passé ici ?
Tout s'est arrêté. Complètement. Pendant 2 ans et demi. Tout était fermé, on a tout stoppé. Il y avait des combats.
Et ensuite,
L'armée syrienne est arrivée. Elle a repris le quartier au groupe armé. Et puis, grâce à Dieu, on a pu relancer notre activité.
Il y a combien d'ouvriers ici ?
Alors, j'en avais 10. Mais ils sont partis. Aujourd'hui, nous sommes 2, moi et mon fils. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Avant, on travaillait 24 heures sur 24. Maintenant, c'est plutôt 7, 8 heures. Ça dépend.
À cause de l'électricité ?
Oui, il n'y a plus de courant. On a un générateur, mais il n'y a plus de réseau électrique.
Et l'atelier a été endommagé par les combats ?
Oui, oui, bien sûr. Vous savez, on a dû changer le plafond, par exemple, à cause d'une bombe. Le toit s'est effondré. Tout est tombé par terre.
Et finalement, pourquoi vous êtes resté pendant la guerre ?
Vous savez, c'est mon pays ici, c'est ma patrie. Où est-ce que j'aurais pu aller ? En Turquie, en Égypte, au Liban ? Je suis là, je ne partirai jamais, ni moi, ni mes enfants. On est tous restés. Bien sûr qu'il y avait des dangers. Il y avait des tirs d'obus, mais si je dois mourir, eh bien, je mourrai.
Il y a beaucoup de gens dans le quartier qui ont fui ?
Oui, beaucoup. Beaucoup. J'avais 8 ouvriers, des jeunes. Ils sont tous partis.
Où ça ?
En Turquie, en Égypte, un petit peu partout. Certains ont intégré l'armée. Mais la plupart sont partis en Turquie.
Et vous avez de leurs nouvelles ? Ce qu'ils sont devenus ?
Oui, j'ai de leurs nouvelles. Ceux qui travaillent en Turquie, par exemple, ils sont ouvriers dans des ateliers.
Je suis syrienne de l'Alep. On a un petit atelier à Alep et on fait des vêtements haute couture pour les femmes. Les femmes. Et nous avons cette entreprise depuis 1982 et on n'a pas arrêté de travailler, même avec la guerre.
Mais comment vous faites ? Parce qu'il y a un embargo.
Comment en fait, pourquoi pour envoyer
Pour tout, pour envoyer, pour être payé.
Pour être payé, donc on a une. Nous sommes installés à Beyrouth et on soit payé par les clients et on reçoit de l'argent avec une autre entreprise libanaise qu'on a fait. Comme ça, on a le droit d'envoyer et recevoir l'argent. Et même pour le vêtement, on a le droit d'envoyer les vêtements à Beyrouth et leur venir. Il n'y a pas d'embargo entre Liban et entre la Syrie.
Avant la guerre, vous avez combien d'employés et vous en avez combien ?
On avait 25 employés. Maintenant, on est à 17 parce que les employés sont partis. Ils sont partis, leur maison a été détruite.
Ils sont partis où ?
Soit à Turquie, soit à Liban, soit on ne sait pas.
Et votre matière première, les fils, le coton, tout ça,
tout les tissus. Vient de l'Europe. Donc les fils, on l'achète d'une entreprise très connue à Milan. On va chaque 6 mois à Milan.
C'est ça. Donc votre marchandise, enfin vos matières premières viennent d'Italie par bateau. Donc là, on va aller voir l'atelier.
Maintenant, ça, c'est les machines où on fait le tricot. Donc,
voilà. Alors c'est une machine de quoi ça?
Ça c'est la machine et ça sort tissu.
Ah oui, donc il y a un tout qui sort. Ah, c'est le tissu qui sort. Hein.
C'est tissu.
Donc des rouleaux de tissu qui sortent de la machine.
Voilà, c'est ça.
Et c'est des machines récentes?
Ça date de 10 ans et ça date de 20 ans.
Et vous n'avez pas eu de problème de maintenance?
On a, j'achète les pièces. Je le fais venir à Beyrouth et puis de Beyrouth, je le fais venir ici par taxi, par bus.
Et là, vous produisez combien par jour ou par mois?
Nous sommes basés plutôt sur haute couture, donc on n'a pas de masse production.
Ouais.
Mais la saison, on ne produit pas plus de 300 ou 400 pièces. Parce que ce sont haute couture. On prend les tailles de la dame, on le fait pour la dame.
Ah oui, c'est du sur mesure.
Sur mesure. Et là, on stocke le mazout, le diesel. Chaque fois que je viens, moi, j'achète en grande quantité, 6 tonnes, 7 tonnes, pour me faire travailler 6 mois. Et comme ça, je n'ai pas de soucis. On ne travaille que sur générateur. On travaille sur le générateur. Avec le diesel, j'achète le diesel au marché noir. Et je l'achète quand le marché est bien.
Et tous les boutons, les doublures, la dentelle, ça vient d'où?
Tout vient de l'Italie. On a des petits accessoires comme des petites fils comme ça, ça vient d'ici. Les fils à coudre, les petites aiguilles, tout ça, ça vient d'ici. Mais tout ce qu'on a besoin de comme tissu, comme bouton, tout ça, ça vient. Tout accessoire vient de l'Italie.
Donc finalement, vous avez réussi à survivre économiquement au milieu de la guerre.
Oui, on a réussi et on a de la chance que notre entreprise n'a pas été détruite par la guerre.
Et là, les djihadistes, enfin les opposants, les djihadistes, ils sont combien de kilomètres d'ici?
On a Daesh, qui est à côté de Ramous et de côté l'Est, et on a Al-Nusra, qui est à côté de l'Est.
Et vous n'avez pas peur?
Moi, non. Maman, oui.
Moi,
j'ai
peur.
Moi, malheur.
Comme partout en Syrie, pas une seule famille n'a été épargnée par les violences, que ce soit dans les quartiers loyalistes d'Alep ou dans ceux sous contrôle des groupes armés rebelles. En fonction de l'évolution de la ligne de front, certains habitants ont dû se résoudre à prendre la route de l'exil, souvent vers la Turquie. D'autres ont choisi de rester malgré les risques, comme Lorraine Bakalian, une employée de banque.
Je m'appelle Lorraine Bakalian, je vis à Alep, je suis syrienne. Et ça fait 5-6 ans que je vis la guerre.
Et alors là, on se trouve dans quel quartier?
Là, maintenant, on se trouve à Azizieh, centre-ville, downtown.
Et là, vous étiez proche de la ligne de front ou vous étiez un petit peu à l'abri?
Les deux ensemble. Ça dépend de la situation.
C'est-à-dire que votre immeuble a été touché par des roquettes?
Dans le quartier ici, tout autour de nous, il y avait toujours des missiles. On a eu des vitres qui se sont cassées 3-4 fois.
Et alors vous, pourquoi vous êtes restée?
Je suis restée parce que j'ai mon boulot et je ne peux pas quitter le boulot. J'ai jamais une garantie d'avoir un boulot ailleurs. C'est ça.
Sauf qu'il y avait des risques énormes ici.
Beaucoup, beaucoup de risques.
Depuis 3 mois, Alep est réunifié. Les gens soufflent un petit peu.
On a repris un souffle. Il n'y avait plus de missiles. On se sentait plus à l'aise, on marchait très à l'aise dans les rues. Oui, c'est autrement.
Est-ce que les gens, malgré tout, maintenant ont de l'espoir, reprennent espoir?
Oui. Petit à petit, on doit reprendre le train de vie. Peut-être pas dans une année ou deux années, mais Ça doit aller.
Et vous, à la banque, comment vous sentez ça? Il y a plus d'activité, les gens reviennent, comment ça se passe?
Oui, il y a toujours. Récemment, on a eu des clients qui sont revenus du Liban, du côté de l'Attaque et de Tartous, pour reprendre leur boulot et puis voir leur compte chez nous.
Et alors, dans la ville, vous sentez, je dirais pas une reconstruction, mais vous sentez que la vie revient ou c'est encore timide?
Non, il y a beaucoup de gens qui sont retournés voir leur magasin côté Mdine ou dans des endroits côté Aroub. Non, les gens veulent retravailler et récupérer leur boulot et puis tout ce qu'ils ont perdu.
Et à la banque, est-ce que tous les employés sont revenus?
Non, il y a pas mal des employés qui ont quitté et il y en a qui sont restés. C'est une conviction, c'est une question de conviction, de rester ou de quitter. Il y a des gens qui ont décidé de quitter pour, juste pour fuir. Et il y a des gens qui ont quitté peut-être parce qu'ils veulent quitter, ils n'en peuvent plus.
Je m'appelle Bajoura Georges, je suis le directeur pédagogique de l'Institution agronomique du lycée français d'Alep.
Est-ce que vous avez le sentiment que le pire est derrière vous?
Je pense que oui. Moi, je suis optimiste, c'est pourquoi j'ai décidé de rester toujours sur la ville d'Alep. Eh bien, j'ai gardé mes enfants, ma famille.
Et comment vous voyez maintenant l'ambiance dans Alep? Parce que vu de France, on a l'impression que toute la ville est rasée, que les gens vivent dans les décombres. C'est quoi votre Alep, vous?
Elle n'a pas été changée. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de modifications, beaucoup de changements dans les bâtiments, dans l'état d'esprit des gens, même les services de tous les points de vue. Même la mentalité a été complètement modifiée.
Dans quel sens?
Tout à fait négatif. On voit beaucoup de pauvreté, beaucoup d'illettrisme, beaucoup d'épaves. Beaucoup... Mais vraiment, il y a moins de services, moins d'électricité. Mais ça fait 2 mois qu'on n'a même pas d'eau. Ben, on fait appel à des eaux de puits, à des sociétés avec des citernes. Et comme ça, ils apportent de l'eau à domicile.
Et sur le plan moral, vous avez l'impression que les gens sont traumatisés?
Ben, la guerre, c'est pas facile. Hein. Ben, quand on trouve des personnes décapitées, des personnes tuées, ben, c'est normal. La morale tombe. Moi, j'ai perdu beaucoup de mes amis. Tout Alep a été touché par les obus.
Alors, on voit aussi dans la rue, on a vu des Russes. Ça, ils ont permis de stabiliser la situation?
À mon avis, les Russes ont joué un rôle très important. Hein. Ben, c'est pour garder carrément la paix dans certaines régions ou bien pour enlever les mines. Ils contrôlent les quartiers, certains quartiers. Ben, ils font carrément des patrouilles.
C'est ça, parce que comment ils sont vus par les gens ici?
Ça dépend des gens. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des occupants. Et ben, il y a des gens qui pensent qu'ils sont des sauveurs. Ça dépend du point de vue de chacun. Nous.
Mais ils sont discrets quand même.
Quand même, c'est pas chez eux ici.
En termes d'économie, qui va payer? Parce qu'on voit les destructions dans Alep sont gigantesques. Qui va payer la facture?
Ah oui, la facture, ça a été déjà payé par les Alépins, les Syriens, hein, en général, surtout les Alépins, beaucoup, très cher. Ben, il y a toujours des prêts pour construire une maison, des prêts pour construire une usine. Et ben, on peut plus ou moins morceler les paiements d'une manière graduelle.
Sauf qu'ici, à Alep, tout est détruit. Il y a les stations d'épuration, les stations d'eau, les stations électriques, le réseau. Enfin, je veux dire, c'est énorme, il faut des milliards de dollars.
Ah, c'est lui qui vient de l'extérieur, il peut investir, il peut gagner beaucoup d'argent. Comme il y a des gens qui sont prêts à payer pour les services, maintenant on paye l'eau, on paye l'électricité, il y a aussi des sociétés qui veulent s'implanter et construire et investir avec des projets qui sont colossaux. Et à mon avis, ben, à long terme, ils sont gagnants. À moyen terme, peut-être, ils commencent à gagner le paquet, le grand paquet, pas à court terme, mais il y a des gens qui sont tout à fait d'accord, ils sont partants.
Parce que là, le pays et Alep est revenu 25 ans en arrière.
Oui, mais plus, mais ça n'a rien à voir. Ben, avec des investisseurs, ils peuvent reconstruire la Alep. Mais pas seulement Alep, la Syrie. Moi, je suis très optimiste et je sais bien, quand on place de l'argent et de la volonté, on arrive. À mon avis, ben, ça va restabiliser la situation. Suite à quoi? Voilà, il a des tirs. Ça existe, oui. Oh, mais c'est pas grave du tout. On a l'habitude, on garde le sang-froid, n'ayez pas peur, il n'y a pas de danger.
Merci.
Avec nous dans le studio d'interception, Nadim Houri de l'organisation humanitaire Human Rights Watch. Bonjour.
Bonjour.
On vient de le voir, la ville d'Alep essaye de revivre, mais malgré l'optimisme des Alépins qu'on vient d'entendre, il y a encore des combats un peu partout dans le pays.
Effectivement, il y a des combats contre Daesh autour de Raqqa au nord, mais il y a aussi des combats entre groupes armés et le gouvernement vers le centre de la Syrie autour de Hama, où il y a eu plus de 100 000 nouveaux déplacés. Et les combats continuent d'une manière très très forte dans les banlieues est de Damas, la fameuse Ghouta, où à nouveau de nouvelles destructions. Et les Nations Unies viennent d'annoncer que le nombre de réfugiés syriens a encore augmenté. On vient de passer la barre des 5 millions.
5 millions de réfugiés syriens à l'étranger. On estime qu'il y a 6 millions de déplacés à l'intérieur même du pays, 13 millions de Syriens qui auraient besoin d'une aide humanitaire. Quel horizon pour une réconciliation nationale ?
Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'horizon clair pour la réconciliation. On le voit, les négociations à Genève peinent même à démarrer. Et surtout, on le voit dans la reconstruction, ce n'est pas une reconstruction dans un contexte de réconciliation. C'est au fait la continuation par le gouvernement d'essayer de reprendre contrôle complètement et d'utiliser la reconstruction, je ne vais pas dire comme une arme de guerre, mais comme une arme de récompense pour des quartiers qui l'auront soutenu ou pour certains quartiers qui sont importants pour eux, mais pas du tout dans une perspective de reconstruction, parce qu'on a déjà l'expérience de Homs, une autre ville qui a aussi connu beaucoup de destruction et qui est repassée sous le contrôle du gouvernement maintenant depuis plus longtemps que Alep. Et on voit que la reconstruction là-bas, c'est surtout axé sur la vieille ville, une vieille ville importante, symbolique, mais que par contre, les quartiers pauvres, entre guillemets, rebelles qui s'étaient soulevés, il n'y a eu aucune reconstruction là-bas.
Deux poids, deux mesures, alors, selon vous, dans l'utilisation de l'aide internationale par le gouvernement syrien ?
Je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a une utilisation à... On va favoriser, entre guillemets, un petit peu le centre historique, on va favoriser certains quartiers. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit un manque d'efforts de réconciliation, de refaire revenir les gens qui ont fui. Et notamment, je dirais, cette population périurbaine, sunnite, pauvre, qui s'était soulevée en grand nombre.
En gros, il reste trois groupes de protagonistes, le gouvernement syrien et ses alliés russes, l'armée syrienne libre soutenue par les Occidentaux et les djihadistes de l'organisation État islamique et Al-Nusra. Qui va sortir vainqueur de ces 6 années de guerre finalement ? En tout cas, pas le peuple syrien.
Non, c'est sûr, le peuple syrien, on l'a vu, plus de 50% déplacés. Il y a aussi les Kurdes qu'il faut mentionner. Qui va en sortir gagnant Bon, ce qui est clair, c'est que le président Assad a réussi son pari, il ne partira pas. Dans ce sens, on peut dire qu'il a... je ne pense pas que quelqu'un ait gagné la guerre en Syrie, vu la destruction et vu les morts qui continuent. Mais par contre, effectivement, il y avait cette fameuse équation que les pro-Assad disaient au début, Assad ou on brûle le pays. Ben, ils ont réussi leur gage. Après, aujourd'hui, il faut parler de réconciliation, il faut parler de paix, mais il faut parler de justice et voir comment amener tous ces éléments ensemble. Donc, il faut arrêter, la Syrie continue aujourd'hui à saigner, il faut arrêter cela et commencer à retravailler les questions en profondeur de réconciliation, de transition. Et c'est là où, aujourd'hui, les négociations internationales n'arrivent pas à avancer. Dès qu'on parle de transition, il y a une difficulté à imaginer ce que la Syrie de demain va être. Et c'est, à mon avis, ça devrait être aujourd'hui la priorité.
On signale des combats, notamment à Taqba, qui serait le prémisse de la bataille de Raqqa. La chute de Raqqa, ce serait la fin de la guerre ?
Non, malheureusement pas. Je pense que la bataille de Raqqa va probablement avancer assez vite. Il y a des indications peut-être que Daesh ne fera pas sa dernière... Ce ne sera pas sa dernière bataille. Ils vont peut-être se replier vers Deir ez-Zor. Ce sera un épisode du conflit. Il y aura d'autres, parce qu'aujourd'hui, il y a encore Idlib, donc sous le contrôle de groupes armés, dont beaucoup sont proches de Al-Nusra. Il y a bien sûr aussi la question du manque de négociation avec les Kurdes, qui contrôlent une partie importante du nord de la Syrie. Et puis, il y a aussi la stabilité, même, on le voit, de Damas, de Homs, d'Alep, parce que malheureusement, il y a encore des explosions qui ont lieu dans des lieux publics. Et c'est surtout que les questions de fond, la transition, le partage de pouvoir, le retour des déplacés, ces questions-là n'ont pas été abordées. Donc, c'est important de voir qu'il y ait de la reconstruction, qu'il y ait une économie qui revit dans certaines parties d'Alep, de Homs, de Damas. Je pense qu'il faut encourager cela, mais il ne faut pas être naïf non plus. Pour qu'il y ait une vraie reconstruction, il faut qu'il y ait une réconciliation, et il faut que cette reconstruction se fasse d'une manière juste, non politisée, et qu'elle ne soit pas utilisée par le régime avec les deniers des Européens et l'argent de la communauté internationale, simplement pour punir, entre guillemets, ceux qui ont osé se soulever contre le gouvernement.
Après la défaite annoncée des djihadistes, est-ce qu'il faudrait s'attendre à une recrudescence du terrorisme exporté, notamment en Europe ?
Bon, ça c'est une question assez compliquée. Les gouvernements européens ont très peur du retour de ce qu'on appelle les combattants étrangers. En fait, c'est des combattants européens qui sont allés faire la guerre en Syrie et en Irak et qui risquent de revenir. Je pense que c'est un risque que les autorités prennent très au sérieux. Après, il y a des mesures qui ont été prises pour essayer, entre guillemets, de mieux contrôler ce phénomène. Je pense c'est un risque, mais ça ne devrait pas impacter la stratégie par rapport à ce qui doit être fait en Syrie et en Irak. Après, il faut aussi se rappeler que ces combattants étrangers sont des Européens. Les pays européens ont une responsabilité envers ces gens-là, ce sont leurs concitoyens. Ils ne peuvent pas simplement dire « ce n'est plus notre problème, on va les laisser gérer par l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Turquie ».
Nadim Houri de l'organisation Human Rights Watch, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Alep, la vie dans les décombres, un reportage de Christian Chesneau, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Jason Taous, réalisation Jérôme Boulet, assisté de Stéphane Combe et Zora Bensmaïl. À la semaine prochaine.
ضرب الهوى عذبني تمرمرت بدروبه ضرب الهوى عذبني تمرمرت بدروبه طول علي حبيبي ما لي فاني مكتوبه طول علي حبيبي مالي فاني مكتوب.